préviens, c'est la première fois que je parle à un amant de ma femme et je suis pas du tout préparé à ça.
Le journal inattendu.
Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime.
Je n'aime pas l'amant de ma femme, mais vous couchez avec ma femme. Vous vous foutez bien de ma gueule.
Désormais, moi qui voulais être ton ombre.
Je sais que c'est le sort réservé aux cocus d'habitude, mais moi je suis pas sûr de prendre la chose très placidement.
Miss, je t'aime et je crains de t'aimer encore longtemps. Chiche, que tu ne me laisseras pas tomber.
12h30, 13h30.
On est bien chez vous, vraiment.
Benjamin Biolay est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Qu'est-ce qu'on mange?
Qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait plaisir, vous, le Lyonnais?
Un petit cervelle de canu avec un. Des gratons.
Et puis une petite pièce de bœuf argentin aussi.
Ah, si possible.
Ouais. Bonjour, Benjamin Biolay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour une heure, le rédacteur en chef de ce journal inattendu avant la sortie le 30 octobre de Chambre 212, le film de Christophe Honoré.
Je vous coupe. 9 octobre.
Et j'ai dit 30 octobre. Je me suis bien trompé. 9 octobre, évidemment, le film de Christophe Honoré, avec à vos côtés Chiara Mastroianni, Camille Cotin, Vincent Lacoste. Film surprenant, étonnamment drôle d'ailleurs, car il nous interroge sur des thèmes assez sérieux qui nous concernent, le couple, l'usure des sentiments, du désir, les infidélités, à travers une mise en scène poétique qui mêle fantasme et surréalisme, jeu sur le temps et le lieu. On va évidemment beaucoup en parler après les infos, après le reportage inattendu que vous avez voulu consacrer aux réseaux sociaux à travers le livre de Bruno Patino, La civilisation du poisson rouge. Et après 13h, on accueillera votre invité, Romain Burel, le directeur de la rédaction de Tétu, qui a fait son retour il y a moins d'un an, après plusieurs années d'absence. On parlera évidemment de vous, bien sûr, en musique, évidemment. En revanche, vous ne voulez pas parler de vous-même, cet autoportrait qu'on demande à chaque rédacteur en chef. Ça vous a gêné de le faire?
J'ai essayé 15 secondes et puis j'ai vu que j'en étais absolument incapable, ouais, je sais pas, parce que...
C'est de la timidité?
Je sais pas, je considère que ça intéresse pas grand monde déjà, puis c'est, bien sûr c'est de la timidité, et puis il faudrait savoir se vendre un petit peu, ce qui est pas du tout mon cas, donc je sais pas, je crois même que je ferais pas un portrait forcément très flatteur de moi-même, et puis... Non, je me sens comme un artisan et on parle pas trop des artisans, on parle de leur artisanat, quoi.
Oui, alors on va essayer de dresser quand même un petit portrait de l'artisan. On a jusqu'à 13h30 pour le faire. On commence par les infos, l'actualité de ce samedi 5 octobre, dominée par la piste djihadiste dans l'attaque de la préfecture de police de Paris. Elle est désormais privilégiée. Comment cet homme a pu passer sous les radars? Une commission d'enquête parlementaire est réclamée. Et on peut s'attendre à une grande opération de vérification en interne. Dans un instant, un témoignage exclusif RTL, la voisine très proche du tueur et de sa femme. Dans l'actualité également, 6 jours après les obsèques, l'hommage de la Corrèze à Jacques Chirac, avec une cérémonie en ce moment même en présence de François Hollande. En Irak, un terrible bilan de la contestation, de la répression face à la contestation, 100 de morts et 4000 blessés. Le foot, la Ligue 1, l'OM battu hier, le PSG qui reçoit Angers cet après-midi. En basket, l'exploit de Villeurbanne en Euroleague. Et puis alors ce temps, Anthony Kaczmarek, avec beaucoup de pluie, beaucoup d'averses et des nuages.
Un ciel très gris sur les trois quarts du pays avec des averses surtout entre la Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne cet après-midi. Quelques timides éclaircies le long des frontières du Nord, sur le nez de la Bretagne et dans le Sud-Ouest, et puis toujours du plein soleil dans un large quart Sud-Est, mais avec du vent. Les températures de saison et automnales, avec 14 degrés à Lille, 16 à Strasbourg, 17 à Paris, 19 à Tours et Grenoble, 21 à Biarritz et jusqu'à 25 pour Toulon.
Merci Anthony. Alors vous savez qu'à 13h, c'est vous, Benjamin Biolay, qui serait monsieur.
Je vais tâcher d'être à la hauteur d'Anthony. Ouais.
Bonne chance.
Voilà. Pas gagné, ouais, je
vous répétez.
Le journal inattendu sur RTL.
48 heures après l'attaque de la préfecture de police de Paris qui a fait, je vous rappelle, 4 morts, l'enquête privilégie clairement maintenant le motif djihadiste. Le dossier d'ailleurs commence à tourner à l'affaire d'État. L'opposition demande l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire et chez les Républicains, certains comme Éric Ciotti réclament même la démission du ministre de l'Intérieur. Il faut dire que peu après les faits, Christophe Castaner avait assuré que l'auteur de l'attaque n'avait jamais présenté de signes d'alerte, de difficultés comportementales, et peu à peu, eh bien, l'enquête semble démontrer le contraire, aller à l'encontre de cette thèse. La préméditation avérée, les échanges de SMS à caractère religieux avec son épouse, et puis aussi un changement de comportement ces derniers temps au sein de son service. La proximité avec la mouvance salafiste de cet informaticien de 45 ans converti à l'islam, il y a sans doute d'ailleurs plus d'un an et demi comme on l'avait cru, intrigue les enquêteurs. Et pour éclairer la personnalité de cet homme, tout de suite un témoignage exclusif RTL, c'est celui de la voisine du du couple. Elle était très proche, elle gardait même leurs enfants. Elle témoigne au micro de Mourad Jabari.
Ah mais moi je suis malade, hein. Moi je suis malade, hein. J'en pleure, je dors plus la nuit, ça me fait quelque chose. Et puis ses enfants, parce que ses enfants, ça me fait quelque chose. Le soir, des fois, je gardais son fils. On se voyait, mais la semaine, parce que les enfants, ils étaient à l'école. Et donc, elle m'emmenait en course, on sortait, toujours souriante, à manger avec moi le midi ici, on s'aidait. Son mari, oui, je le connais. Bon, bah lui, il regarde pas trop les femmes. Vous savez, il est caché, enfin...
C'est-à-dire qu'il était distant ?
Distant. Bah, il me parlait pas, moi. Mais quand je venais chez lui, je le voyais plus éloigné de moi. Mais il était toujours sur son... ordinateur. Quand elle était de repos, il n'était jamais avec elle. Elle me disait, il est parti à la mosquée. Je lui dis, tu me dis si ça va pas avec ton mari, tout ça. Elle m'a dit, oh, il y a des hauts et des bas. Je sais qu'elle fait beaucoup de prières, elle aussi, mais elle ne va pas à la mosquée. Hein. Ah non, c'est ce qu'elle m'a dit, parce que je lui dis, tu vas toi ? Elle me dit, non, il n'y a que lui. Tous les samedis, elle restait toute seule avec ses enfants. Après, elle me disait, son mari partait à la mosquée.
Mais, passer ses journées là-bas ?
Pour moi, oui, mais j'ai du mal à m'en remettre. J'aurais jamais cru ça. Ça m'a fait mal.
Voilà, témoignage RTL recueilli par Mourad Jabari. En tout cas, après 48 heures d'enquête, le profil du tueur de la préfecture n'est plus du tout le même qu'au début. Et la question est maintenant de savoir comment il a pu passer sous les radars de cette institution ultra sensible et surveillée. Jean-Alphonse Richard, il faut s'attendre à un grand ménage.
Oui, avec effectivement des enquêtes internes qui pourraient être déclenchées dans les jours qui viennent. L'inspection générale de l'administration, tout d'abord, elle va sans doute être saisie pour faire l'état des lieux des conditions de sécurité au sein de la préfecture de police, plus précisément à la direction du renseignement. Le but est de savoir si il y a eu des faiblesses lors d'éventuels contrôles. L'assaillant Michael Harpon était rentré avec un couteau en céramique, non détectable donc des portiques, mais il était accrédité, portait un badge, et l'on sait que dans ces cas-là, les contrôles sont quasiment inexistants. Autre enquête interne et qui concerne aussi le dossier judiciaire, savoir si l'informaticien converti à l'islam présentait des signes avant-coureurs de radicalisation. Toute une série de témoignages va être passée au crible. En cours de vérification, le fait par exemple qu'il aurait refusé de saluer des femmes, ou encore qu'il se serait réjoui de l'attentat contre Charlie Hebdo. S'il est avéré que ces signaux n'ont jamais été détectés, eh bien cela poserait de sérieuses questions sur l'évaluation des personnels travaillant dans les services policiers les plus sensibles.
Merci Jean-Alphonse Richard. Un commentaire, Benjamin
Violet. Non, je suis atterré que des choses comme ça arrivent, ouais, bien sûr. Ouais.
Et ça nous rappelle que, même si on a tendance rapidement à l'oublier, qu'on est finalement sous la menace permanente.
Même au sein des saints, donc ouais. C'est atterrant. Ouais.
On tient une information encore à l'étranger, c'est en Irak, c'est le bilan de la contestation sociale, bilan de la répression des manifestations extrêmement lourd. Une centaine de morts, environ 4000 blessés. La plupart des victimes ont été tuées par balles. Contestation qui avait débuté mardi à Bagdad et dans plusieurs autres régions contre la corruption et les pénuries. On marque une courte pause dans le journal inattendu de Benjamin Biolay et dans un instant, on évoque l'hommage de la Corrèze à Jacques Chirac.
Le journal inattendu sur RTL, avec Benjamin Biolay et Vincent Parisot.
6 jours après l'hommage populaire, 5 jours après les obsèques de Jacques Chirac à Saint-Sulpice, la Corrèze rend donc aujourd'hui hommage aux plus célèbres représentants de ce département. Les habitants sont invités à saluer sa mémoire tout au long de ce week-end. La famille, et notamment Claude Chirac, s'est recueillie ce matin sur la tombe des parents de l'ancien président de la République. Et en ce moment même, se déroule une cérémonie au musée Jacques Chirac, en présence de François Hollande. Jean-Marc Terrier.
Oui, bien les salles de ce musée du président ici à Saran sont bien remplies. Les Corréziens sont venus en nombre rendre hommage au président Chirac. Une rencontre simple et conviviale, voulue en particulier par sa fille, Claude Chirac. Claude Chirac qui s'est retrouvé plus tôt dans la matinée devant la maison de son père, à une 40aine de kilomètres de Saran, dans le petit village de Sainte-Féréole.
C'est une grande émotion, un émerveillement de voir autant de chaleur humaine. J'en profite pour une fois encore remercier d'abord et avant tout de la part de ma mère. Je pense qu'aujourd'hui aussi, et peut-être encore plus particulièrement, parce qu'elle n'a pas pu venir, mais depuis Paris, elle va, je pense, vraiment vivre avec nous ce moment.
Émotion et échange avec les Corréziens qui ont bien connu son père.
Et les photos de votre papa.
Merci en tout cas d'être venu.
Alors dans quelques minutes, François Hollande, qui est présent pour cette cérémonie d'hommage, évoquera certainement les relations particulières qu'il entretenait avec Jacques Chirac, des racines communes qui avaient fini par rassembler les deux chefs d'État.
Jean-Marc Terrier, donc François Hollande présent à cet hommage à Jacques Chirac. Ça vous a touché, vous, la disparition, j'imagine. C'est de toute façon générationnel. Vous avez...
D'un point de vue générationnel, ouais, ouais. C'est très... Bon, c'était pas quelque chose qui était une grande surprise non plus. Je savais qu'il n'était pas dans un état de santé très, très satisfaisant. Mais oui, c'est quand même... C'est la fin d'une époque, définitivement. Ouais. Mmh. C'est que ça reste le premier ministre de François Mitterrand aussi, quoi. Enfin, de plein de choses pour moi. Et puis le maire de Paris. Et puis c'était une personnalité qui, au-delà du parcours politique, dont moi j'étais pas un grand admirateur, était quelqu'un de sympathique et qui avait beaucoup, beaucoup d'empathie pour les Français. Mmh. Et c'est ce qu'il a réussi, in fine, à laisser. Et c'est quand même important, je trouve. Mmh.
Vous avez toujours beaucoup de sympathie pour François Hollande.
Bah ouais, beaucoup.
Et ras-le-bol du Hollande bashing.
Oh ben, y en a plus, si.
Il y en a moins.
Bon, voilà.
Tiens, une info pratique. Je sais pas si vous êtes automobiliste, mais en tout cas, en région parisienne, ça va concerner du monde. Le périph sera partiellement fermé dès 14h, donc dans un petit peu plus d'une heure, jusqu'à demain matin, entre Porte de Bagnolet, Porte de Pantin, parce que la partie du périph va être transformée en grand vélodrome.
Voilà, c'est mon rêve de faire du vélo sur le périph.
Voilà. Et ben, vous pouvez le faire. Ce sera cette nuit, super, dans le cadre de la nuit blanche. Un mot de sport. Le foot, début de la 9e journée. Hier, l'OM a perdu à Amiens 3-1. Cet après-midi, PSG Angers. 5 autres match ce soir dans le multiplex RTL Le Parisien aujourd'hui en France. Et puis alors, je sais ce qui vous fait plaisir, c'est la victoire de Villeurbanne pour son retour en Euroleague. Villeurbanne qui a battu l'immense Olympiakos.
L'immense Olympiakos, puis Villeurbanne, il y a des gens qui l'ignorent, mais c'est Lyon. Et moi, je suis lyonnais, c'est ce qui a failli être le 10e arrondissement de Lyon. Ouais. Et puis c'est Tony Parker, le grand Tony Parker, qui n'a rien à gagner d'ailleurs à reprendre ce club et à s'investir dedans. Donc déjà, l'effet Tony, et je trouve ça vachement bien.
Le reportage inattendu.
Le reportage inattendu que vous nous avez demandé, Benjamin Biolay, sur, on va dire, le livre événement, le livre de Bruno Patino consacré à l'explosion des réseaux sociaux, La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. On serait devenu des poissons rouges enfermés dans le bocal de
on
nos
a une
écrans.
Une seconde d'autonomie de plus, quoi.
Eh bien, voilà, c'est ça. Le poisson se souvient de pendant 8 secondes, et pour les jeunes nés avec l'Internet, l'attention du 9 secondes. Reportage inattendu, signé Raphaël Vantard.
C'est l'heure de la sortie des cours dans ce lycée de région parisienne. Aucune exception. Tous les élèves qui rentrent et sortent ont leur téléphone dans les mains. Charles, Médès et Anna regardent dans les réglages leur temps d'utilisation quotidien.
5h38 par jour.
Est-ce que vous voyez dans le détail ce que vous faites dessus ?
Alors attendez, je suis sur les réseaux sociaux. Snapchat, Instagram, Twitter. Voilà.
Et vous êtes à combien ?
Moi, je suis
votre prénom, c'est comment ?
Charles, et j'ai 6h56 par jour sur mon téléphone.
Là, donc, on est quasiment à 7h sur 24h d'une journée. Hein.
Exactement, oui. On se lève, on regarde le téléphone, on se couche, tu regardes ton téléphone, puis voilà, c'est tout. Ça mange le temps et on se rend pas compte. On peut passer beaucoup de temps sur une application.
Est-ce que vous savez que notre génération, le temps qu'on passe sur ces écrans, hein, on l'a vu là, c'est un... Entre vous, c'est entre 5, 6, 7 heures. Est-ce que vous savez qu'on perd de l'attention du coup ? Et qu'aujourd'hui, l'attention qu'on a, elle est en moyenne de 9 secondes.
Moi, je ne savais pas, j'étais pas au courant.
C'est choquant. Ouais. C'est vraiment choquant. C'est 9 choquant. Secondes, c'est choquant. On est quand même lycéen, on doit se concentrer pour les cours, etc. 9 secondes de concentration, c'est quand même choquant. Toutes les 15-20 minutes, je regarde. Obligatoirement, peu importe où je suis.
Est-ce qu'on est moins libre ?
On est moins libre. On est pris au piège du téléphone et des réseaux sociaux. C'est ça, mais on est obligé. C'est comme ça.
Pourquoi on est obligé ?
Si on reçoit une notification, on a forcément envie de la voir. On est contraint de regarder, on est obligé de regarder. C'est comme quelqu'un qui, je sais pas, qui fume des cigarettes, il sait que c'est dangereux pour la santé, mais il continue à fumer. C'est addictif, je crois, c'est ça, hein, c'est addictif. Je pense que vraiment, on peut rien y faire.
Une seconde de plus que le poisson rouge, quand même. Hein. Il est à 8 et nous, on est à 9. Enfin, je veux dire, on est... Avec 9 secondes d'attention, c'est la décadence.
La décadence, le mot est celui d'adolescent un peu désabusé. En réalité, Bruno Patino, auteur de La civilisation du poisson rouge, le dit. Oui, le constat est alarmant, mais il y a des solutions. Il y a surtout une stratégie des géants du numérique pour happer les utilisateurs, surtout les plus jeunes.
C'est pas un produit du hasard ou pas un produit de la technologie. C'est le produit d'outils dérivés des neurosciences qui sont utilisés pour qu'un certain nombre d'acteurs numériques gagnent bien leur vie. Il faut qu'on s'autodiscipline, mais collectivement, qu'on ait des règles de vie, de bien savoir vivre et combattre aussi, parce que ça passe aussi par un moment donné, réduire la capacité d'action économique d'un certain nombre de grandes sociétés dont on connaît tous les noms, qu'on utilise tous d'ailleurs, moi le premier, et il ne s'agit pas ici de les interdire, mais de les canaliser.
Pour répondre à cette nécessité, certaines écoles demandent aujourd'hui aux élèves de laisser les téléphones portables à l'entrée de l'établissement.
Un reportage signé Raphaël Vantard. Ce qui est intéressant, je trouve, Benjamin Biolay, c'est que Bruno Patino avant d'écrire ce livre, c'était son métier et il en a vécu.
Exactement, c'est pour ça que c'est un ouvrage et une recherche qui est hyper importante et intéressante, parce que c'est quelqu'un de vraiment concerné. C'était quelqu'un de très, qui faisait beaucoup de prosélytisme par rapport aux médias numériques et qui a été directeur de contenu digital de plein d'entités différentes. Et venant de lui, je pense que ça a beaucoup plus d'impact que venant de quelqu'un comme moi qui se dirait, tiens, je n'aime pas les réseaux sociaux, j'essaie de comprendre pourquoi. Lui, c'est très scientifique.
Et je ne sais pas ce qui vous a marqué dans ces témoignages de jeunes lycéens. Moi, c'est le côté victime consentante.
Moi aussi, c'est le côté vraiment défaitiste. Et puis voilà, ils vont au peloton gentiment. De toute façon, je n'avais pas le choix. Mais ils sont sincères. C'est ça qui m'a ému. C'était, après 10 secondes d'interrogation, ils se sont rendus compte qu'ils étaient des victimes. Mais je pense que 9 secondes après, ils ont oublié l'interview.
Allez, on part une pause. Et on se retrouve dans Journal Inattendu de Benjamin Biolay. Chambre 212 de Christophe Honoré sort le 9 octobre. A tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL avec Benjamin Biolay et Vincent Parizeau.
Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres.
Reprise inédite de ce titre inoubliable de Charles Aznavour sur un couple qui se sépare et qui ouvre d'ailleurs ce film Chambre 212. Aznavour qui nous a quittés il y a tout juste un an, que vous adoriez, je crois.
Que j'adore toujours.
Ouais, bien sûr. Qui fait partie avec Trainé, Gainsbourg, on va dire de votre.
Et Salvador, ouais, vraiment de mes super-héros de la chanson française. Ouais.
C'est le film qui vous a donné envie de reprendre cette chanson?
Oui, parce que c'est une chanson finalement, je connaissais pas si bien que ça. Le riff de cordes qui au début est très connu. Et c'est Christophe Honoré qui m'a demandé de la reprendre à l'occasion d'une interview, un truc. Et puis finalement, j'en ai fait une version un peu rapide comme ça, mais en studio. Et je me suis rendu compte quand même de la modernité de la composition. Et puis de toujours cette efficacité dans l'écriture, c'est toujours tellement triste. Mais avec sa façon de le chanter, ça s'entend moins, je trouve. Ouais. C'est quand on lit le texte qu'on est assez stupéfait.
Il disait les choses directement. Quand il écrivait un texte à Aznavour,
il n'aimait pas tourner autour du pot. Ouais. Et puis les mecs, que ce soit des choses qui soient dites sous une forme relativement inédite, en fait. Il pensait qu'une chanson avait beaucoup plus de chances de marcher si elle abordait un sujet inédit ou de manière inédite. Mmh. D'où, comme ils disent, etc., toutes ces chansons merveilleuses qui l'ont rendu.
Aznavour, qu'on retrouve d'ailleurs par un chemin détourné assez surréaliste, puisqu'il personnalise la volonté.
C'est extraordinaire.
Dans ce film Chambre 212. Donc, film de Christophe Honoré qui sort le 9 octobre avec à vos côtés Chiara Mastroianni, Camille Cotin et Vincent Lacoste.
Depuis quand, dis-moi, ta sexualité est devenue une activité extra-conjugale?
C'est la loi des couples qui dure. Personne n'y échappe.
Sauf que moi, je t'ai jamais trompé en 25 ans.
Richard.
Désormais, mon cœur vivra sous l'aile.
Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré.
Est-ce que je m'autorise une fois un écart?
Maria, nous avons la liste de tous vos écarts.
Pierre, le cousin.
Mais qui couche encore avec ses cousins après 14 ans?
Bah, tout le monde, hein.
Non, chambre 212, ça évoque rien pour toi? Article 212 du Code civil. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et madame est professeure en fac de droit.
Chambre 212, donc film qui joue avec l'espace, avec le temps, parce que cette chambre 212, de cette chambre, Maria, votre épouse, interprétée par
Chiara Mastroianni,
votre ex-épouse d'ailleurs, elle a une vue plongeante sur le domicile conjugal qu'elle vient de quitter. Elle a aussi une vue plongeante sur sa vie passée. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent lentement, il y a beaucoup de douceur. Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait un peu à un Fedo onirique.
Exactement, je pense qu'il y a un peu de guiterie, un peu de Fedo, il y a un peu de magie chez Christophe Honoré. Ouais. Souvent, il aime beaucoup décrocher sur quelque chose d'assez féerique. Il y a par exemple le Comte Breton dans Non, ma fille, tu n'iras pas danser. Il y a plein de choses comme ça. Mais surtout, c'est un film, c'est délicieux. Moi, je trouve ça un petit bijou de légèreté et de profondeur, ce qui est très compliqué à faire. Et c'est un film très, très, très ludique, très drôle et très, très, très émouvant. Et il dure 1h30. Donc, par rapport aux gens qui passent 7 heures sur les réseaux sociaux par jour, 1h30, c'est pas grand chose.
Voilà. Ils peuvent faire un effort. Alors, elle est une infidèle compulsive. Et vous êtes un mari fidèle et dévoué.
Un fidèle compulsif, presque. Ouais, ouais. Ouais. Oui, je suis un garçon qui a laissé le temps faire sa patine, mais sans trop s'en rendre compte, en fait, et qui se retrouve à un moment de sa vie face à des révélations qui le choquent, ouais, bien sûr.
Et puis alors, pour le coup, lui, il est vraiment en mode, j'ai envie de dire, cocooning. Un mot de votre tenue, parce que dans ce film, alors on est en plein hiver, il y a de la neige, et vous ne quittez pas ce Bermuda trop large et vos chaussettes de laine. Un peu comme un petit garçon.
Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu son doudou, quoi, ses grosses chaussettes et son short. Je pense qu'il vit quelque chose de tellement choquant à son échelle et tellement à des années-lumière de ce qu'il avait imaginé de sa femme, de son épouse, qu'il a besoin finalement de mettre son doudou, quoi. Enfin, je crois qu'on a tous des tenues de déprime, plus ou moins, quoi. Enfin,
là, c'est une bonne tenue de déprime.
Là, il est bien. Ouais.
Alors qu'elle a des histoires avec ses élèves beaucoup plus jeunes qu'elle. Lui, d'ailleurs, a eu une longue histoire auparavant avec sa prof de piano, qui était forcément...
A priori, sa seule autre histoire, oui, ouais. si je comprends bien.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de cougar, tout cela est devenu d'une banalité. Le regard j'allais dire, de la société par rapport à ce genre de situation a énormément changé en 10 ans.
Ah bah, c'est un film qui choque un petit peu les gens, parce que c'est vrai que le personnage de Chiara est extrêmement libertin, extrêmement libre, extrêmement libéré. Mais je pense qu'il y a quelques années, ça aurait été carrément une déflagration. Ouais.
Ce qu'on va faire, c'est marquer une courte pause.
Ah, bien.
Mais on reste avec Benjamin Biolay quelques instants, évidemment. Palermo Queens.
Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut chaque jour. Tu dis qu'on ne joue pas pour la même équipe. Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic.
A tout de suite sur RTL.
Puis tu dis que je suis à la fois trop plouc et trop chic. Pour une fille comme toi. Reina de Palermo.
Le journal inattendu sur RTL.
Il est 13h01.
Journal inattendu de Benjamin Biolay.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parisot.
Et l'actualité de ce samedi est dominée par la piste djihadiste dans l'attaque de la préfecture de police de Paris, qui a fait 4 morts jeudi midi. Cette piste terroriste est désormais privilégiée, une commission d'enquête parlementaire est réclamée. Et information RTL, le chef de l'État Emmanuel Macron s'est rendu sur place à la préfecture de police ce matin pour exprimer son soutien aux policiers. Il faut désormais, dit-il, laisser la justice travailler. 6 jours après les obsèques, l'hommage de la Corrèze à Jacques Chirac, une cérémonie se déroule en ce moment même en présence de François Hollande. Le terrible bilan de la répression face à la contestation en Irak, 100 morts et 4 000 blessés. Le football, la Ligue 1, l'OM a perdu hier, le PSG reçoit Angers cet après-midi. 5 autres matchs à suivre ce soir dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Et puis en basket, on salue l'exploit de Villeurbanne en Euroleague pour son retour après 9 ans d'absence dans la compétition. L'ASVEL a battu l'Olympiakos 82-63. Et aujourd'hui, sur RTL, Monsieur Météo, c'est Benjamin Biolay.
Alors la météo du jour, le temps sera gris et maussade sur une grande partie du pays avec pas mal d'averses. Quelques rares éclaircies perceront en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne et le long de la frontière belge. En revanche, le ciel restera couvert avec des averses beaucoup plus fréquentes de la Normandie à la Franche-Comté en passant par l'Île-de-France. Beaucoup de soleil vers les Pyrénées dans le sud-est, mais avec du vent. Alors les températures cet après-midi, 14 à Lille, 16 à Strasbourg, 17 à Paris, 18 à Villefranche-sur-Saône avec des risques d'averses rue nationale, 18 degrés à Lyon du côté de la basilique de Fourvière, 20 à Nantes, 22 à Toulouse, 24 à Marseille, 25 à 7.
Eh bien, en régie, on m'a dit vachement bien la météo de Benjamin Biolay. Vachement bien, je pense. Ouais.
Benjamin Biolay est sur RTL.
Hey. M, mon amour, c'était sur l'album Vengeance en 2012, hein, déjà 7 ans. Message adressé à l'amant de sa femme, d'ailleurs.
Oui, mais
c'est un petit peu ça l'histoire de la chanson.
Oui, c'est une chanson. Non, ouais. Moi, l'amant de ma femme, je ne lui parle pas.
Ouais,
je
justement,
fais pas, je fais pas de chanson.
Ça nous renvoie à Chambre 212, autre histoire d'adultère en série, pour le coup, le film de Christophe Honoré, le 9 octobre, avec Chiara Mastroianni, qui a reçu le prix d'interprétation féminine.
Elle est très méritée, j'ai pas vu les autres films, mais elle est merveilleuse dans le film.
Ouais, tout à fait.
On voit tout d'elle, son talent, sa folie, sa fantaisie, une énergie. Enfin bon, bref, moi j'adore ce film. C'est pas parce que je suis dedans.
Mais... Non, mais vous êtes dedans avec elle, la mère de votre fille, Anna, votre ex-épouse, qui joue votre femme à l'écran. Je veux dire, est-ce que c'est Christophe Honoré qui a voulu ce casting?
Je pense pas que ce soit une démarche, motivée par l'état civil.
Ouais.
Non, je pense qu'il a évidemment voulu Chiara pour son
talent
au tout début. Eu très envie de Vincent Lacoste aussi, puis en cherchant qui pourrait devenir Vincent Lacoste 25 ans après, il est arrivé à moi. Je crois même qu'il a demandé à Chiara si ça la dérangeait pas de faire ça. Donc il n'y avait aucune envie de mélanger la fiction et la réalité de sa part.
Benjamin Biolay, musicien, chanteur, acteur, on y viendra, même si j'ai vu une interview où vous dites « je ne suis pas acteur », on y reviendra. Aussi réalisateur, si, parce qu'en cherchant bien, je suis tombé sur ce court-métrage de 2014 intitulé « Office du tourisme ».
Vous voulez pas marcher un peu ? J'ai jamais fait ça avec une fille.
Moi non plus, j'ai jamais fait ça avec une fille.
Ça fait plaisir de prendre des jolies filles comme vous, là. Je vais vous le dire, la journée n'avait pas si bien commencé. Au début, là, juste avant vous, j'ai pris un petit couple, là, des PD.
Quoi ?
Et il y en a partout. À Paris, il y en a partout, il n'y a que ça.
Pas de neveux pour les tontous, ni certificat, ni bagouze. On lâche pas, on lâche rien, car pourquoi pas les animaux demain.
Voilà, rôle de composition que vous étiez offert, hein, parce que chauffeur de taxi homophobe.
Ouais, mais malheureusement, ce truc s'est produit il y a quelques jours, exactement dans les mêmes conditions. Et puis, j'avais pris tous les slogans complètement dégénérés des anti-mariage pour tous pour faire une chanson, quoi.
Ouais, c'était déjà un film engagé sur cette question.
Bah après, c'était sur, il y avait aussi l'immigration, plein de choses. C'est comment est Paris de nos jours quand on arrive et qu'on a une image d'Épinal et qu'on se retrouve face à la réalité de la violence urbaine, parce que c'est une ville qui a une des densités les plus élevées, un des taux de densité les plus élevés au monde. Je crois qu'on est 22 000 habitants par kilomètre carré, donc forcément on est tous sur les nerfs.
Ouais.
Et l'accueil à Paris est pas...
Ouais. Mais pour en revenir à l'homophobie, c'est quelque chose qui vous...
Enfin, qui me choque énormément, comme le racisme et toutes ces synonymes de bêtises crasses et surtout de manque d'éducation, en fait. Parce que je connais personne d'éduqué et de sensibiliser aux questions de racisme, d'homosexualité, qui disent des choses aussi énormes et stupides que les gens qu'on entend parfois vociférer.
Ouais. Alors, justement, on va accueillir votre invité dans un instant, Romain Burel, le directeur de la rédaction du magazine Têtu, qui a fait son retour en trimestriel il y a maintenant près d'un an. Pourquoi lui, d'abord?
Bah déjà, Têtu, j'ai trouvé ça admirable qu'une tentative de retour de presse écrite, quand même, parce qu'on est en 2019. Donc, je me suis dit, c'est vraiment...
C'est un peu à contre-courant.
Oui. Et c'est très à contre-courant, même. Et puis, je parle d'éducation civique. Je pense que c'est une publication qui vient de Pierre Berger. Je crois que c'était le premier à lancer Têtu. Et il faut éduquer les gens. Et Têtu fait partie de ces titres de presse qui sont hyper importants pour la salubrité publique.
Bonjour, Romain Burel.
Bonjour.
Voilà, vous faites œuvre de salubrité publique.
Moi, je le crois, ouais. Je pense exactement comme Benjamin. Je pense que c'est hyper important que ce titre existe. Moi, je me rappelle quand je l'achetais quasiment de manière très discrète chez le libraire, que je l'ai ramené chez moi. À l'époque, c'était un magazine qu'on cachait peut-être sous son lit.
Ouais.
Aujourd'hui, j'aime à croire qu'on fait un magazine qu'on peut laisser sur sa table basse.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est plus tout à fait le même Têtu non plus. On va dire que c'est un magazine, voilà, culturel. Moi, on va parler des entretiens. Là, par exemple, dans le dernier numéro, il y a Xavier Dolan, Roselyne Bachelot, Alex Baupin.
Vincent Lacoste qui joue
Vincent Lacoste, évidemment. C'est un magazine culturel.
Ouais, c'est un magazine de société. Il y a beaucoup de sujets de société. Et puis, c'est aussi un magazine culturel parce que la culture, elle est dans l'ADN de journal depuis le début, en fait. Comme disait Benjamin, c'est Pierre Berger qui avait relancé le titre dans les années 95. Et la culture, pour ce public-là, c'est quelque chose de très, très important. En plus, on pense très souvent que les artistes nous comprennent mieux que la plupart du reste de la société en général.
Dans votre édito, vous posez une question. Qu'est-ce que ça implique de faire un média pour une communauté à laquelle on prétend s'adresser, surtout dans un pays où le mot communautarisme est perçu comme un juron ? En quoi ce communautarisme n'est pas... un repli, mais plutôt une ouverture.
Parce que cet édito, je l'ai appelé « Ma queerness est une ouverture sur le monde ». C'est-à-dire, mon homosexualité est une ouverture sur le monde. C'est le fait d'être minoré, le fait de vivre des discriminations me rend plus sensible à toutes les autres discriminations que les gens peuvent subir, je crois. Et en fait, vous réunissez 500 personnes dans une pièce, tout le monde fait partie d'une minorité. Mmh. On est rarement le parangon de quelque chose qui serait là depuis très très longtemps et qui serait la majorité, en fait, concrètement. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour comprendre l'autre. C'est pour ça que je pense que ce magazine, il est plus ouvert que simplement les personnes LGBT. Hein. Faut pas croire que on est là pour véhiculer du repli. Au contraire, on est là pour être un lieu de carrefour et de rencontre. Et moi, j'ai la sensation que, ouais, je peux mieux comprendre le racisme peut-être parce que je sais ce que c'est que l'homophobie parce que je l'ai vécu dans ma chair.
Mmh. Oui, comme moi je peux mieux comprendre l'homophobie même si je suis hétérosexuel parce que je suis un artiste et quand j'étais petit on me regardait comme si j'étais complètement demeuré en disant bah non lui c'est pas grave c'est l'artiste. Donc comme dit Romain, en fait tous partie de minorités en fait, c'est pas un gros mot le communautarisme, c'est... Je trouve, quoi. Le repli communautaire, d'accord, mais avoir une communauté, c'est la base de chaque individu, de toute façon.
On déteste ce mot-là en France, parce qu'on a le principe d'égalité qui est hyper chevillé au fond.
Exactement.
Dans d'autres pays,
d'un point de vue historique, c'est
moi, par exemple, si je peux m'arriver de tiquer sur ce mot-là, c'est parce que j'aime pas tout ce qui est très américain aussi, quoi, tout ce qui est très anglo-saxon. C'est vrai que c'est ça qui peut rendre ce terme un petit peu compliqué, mais c'est hyper important. La communauté, c'est beau, la communauté.
Mais bien sûr, on n'est pas là pour faire sécession, hein. On est là pour vivre et être accepté. Avec les mêmes droits que les personnes, notamment hétérosexuelles. On voit que c'est compliqué. On le voit encore cette semaine à l'Assemblée où un député a réussi à nous expliquer que l'homosexualité était un choix. Quand même, c'est fou. On est en 2019, on est 6 ans après le mariage pour tous, on en est encore là.
C'était quel député ?
Pascal Bringot.
Mais en même temps, il y a une volonté, et ça vient aussi de l'Assemblée, de lutter contre ces propositions qui sont faites de guérir certains de l'homosexualité.
Thérapie de conversion. Ouais, c'est quelque chose de très très grave. C'est incroyable de se dire qu'en fait, c'est encore. D'abord, c'est pas interdit en France aujourd'hui. Il faut le savoir. C'est
l'article. J'ai lu ça récemment, ça m'a choqué. Ouais, voilà,
donc, il y a des groupuscules religieux qui vous proposent de guérir de votre homosexualité comme si c'était possible. Ce qui est très drôle en fait, parce que dans un sens, parce que le nombre de dirigeants de ces groupuscules-là qu'on retrouve faisant leur coming out en ce moment, en disant bah en fait j'ai toujours été homosexuel, j'ai jamais pu guérir de ces choses-là, évidemment. Voilà, ça serait drôle si jamais il y avait pas des milliers de gamins qui seraient broyés par ces.
Bien sûr, parce que la chanson du petit court métrage, le moment où je sentais pas de neveu pour les tantous, c'était une célèbre photo d'un député. Notoirement homosexuel qui était à la manifestation à côté de ce slogan sans broncher quoi.
Les débats sur le Pax, ouais, effectivement.
En tout cas, longue vie à Tétu. Moins de cover boys, moins de corps huilés et plus de culture.
Bah clairement, plus d'engagement aussi. J'étais assez fier. Au mois de mai, on avait demandé à Antoine Griezmann de faire la couverture du magazine pour parler de l'homophobie dans le football. Vaste sujet. Je suis assez content de voir que d'ailleurs il rebondit à la rentrée et qu'on a pu aider à ce que ce sujet soit inscrit un peu mieux dans les médias. Moi, je veux faire un magazine qui dit des choses. C'est pour ça qu'on préfère sortir tous les 3 mois parce que ça nous laisse plus le temps pour réfléchir de ce qu'on va dire. Et voilà. Et l'idée, c'est de véhiculer des choses. Là, on revient avec Roselyne Bachelot sur le Pax. Ouais. Le magazine a été créé pour faire exister la notion de Pax il y a 25 ans maintenant. Et on est très content de revenir là-dessus et de voir que finalement, il y a des choses qui ont changé et il y a des choses qui changent pas.
Avec une interview de Vincent Lacoste, vous dites de lui la bombe sexuelle qu'on n'avait pas vu venir.
Mais c'est vrai, tout le monde
dit ça.
C'est
une bombe sexuelle, clairement. Vincent Lacoste. Ouais.
Ah, vous savez, je préfère qu'il y ait un instru. Mais oui, il est très très beau.
En tout cas, longue vie, évidemment, à Tétu, désormais trimestriel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Romain Burel. À tout de suite sur RTL avec le journal inattendu de Benjamin Biolay.
Le journal inattendu de Benjamin Biolay avec Vincent Parisot sur RTL. les cerfs-volants qui planent, quelques amants qui flânent, un petit vent, les parasols plantés dans le sol. Il y a longtemps, ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. On gagne.
La superbe, mais aussi ton héritage, les cerfs-volants. On a fait court, hein, pour résumer, 25 ans de carrière, évidemment. On aurait pu mettre dans la Mirko Benz, un des premiers tubes. Toute l'élégance de Benjamin Biolay à travers ses titres. La semaine dernière, c'est Stéphane Bern qui était à votre place, Benjamin, et il a eu cette question pour vous.
Cher Benjamin Biolay, c'est Stéphane Bern. J'ai une question à te poser. Tu écris très bien, tu composes des albums pour d'autres avec beaucoup de talent et beaucoup de succès. Tu joues très bien au cinéma, tu es le mec le plus agaçant du moment. Mais est-ce qu'il y a un domaine où tu dois avouer ton incompétence ?
Voilà. Dans quoi vous êtes nul ?
Voilà, tout ce qui est manuel. Alors je suis vraiment une catastrophe.
Vous changez des ampoules quand même. Vous êtes.
Je sais changer une ampoule vite fait. Et je me rappelle dans un des premiers films que j'ai fait, je devais planter un clou et j'ai eu une doublure. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. J'en étais incapable devant le stress de la caméra, le truc. Non, je suis manuellement, je suis vraiment épouvantable. Mais c'est affreux.
Bon, sinon le reste, vous savez faire, comme l'a dit Stéphane, et avec quel talent. À la question de savoir si un acteur, ça c'est l'interview aux Inoccupables cette semaine. Si un acteur est une personne qui cherche à être infidèle à elle-même, vous avez cette réponse lapidaire. Je sais pas, je suis pas acteur. Vous n'êtes pas acteur. Non. 25 rôles dans des films, vous n'êtes pas acteur. Vous n'êtes pas plus acteur que l'était Aznavour ou Reggiani, c'est
voilà.
Ça que vous voulez dire.
Voilà, je pense pas que si vous me réveillez, vous me dites tu fais quoi dans la vie, je pense pas que spontanément je veux dire je suis comédien, ni Charles, ni Monsieur Reggiani et tout. Ça fait partie de notre... comment dire, de nos prérogatives, de notre champ d'action d'interprète, en fait, de jouer la comédie, et c'est comme une prolongation du truc, mais tout part de musique. D'ailleurs, moi, j'aime pas faire un monologue, j'aime jouer avec les autres.
Ouais. Sauf ça tombe
Christophe
bien.
Honoré, parce que là, j'ai eu du plaisir à faire des monologues, parce qu'ils étaient bien écrits comme une bonne chanson, quoi. Donc
c'est la musique. C'est la musique et la scène. Tiens, petit retour, 2002, Alain Souchon se produit au Casino de Paris.
Vous avez de la chance. Parce que vous allez voir et entendre un chanteur chic. Il s'appelle Benjamin Biolay.
Voilà, adoubé par Alain Souchon, qui vous offrait sa première partie en 2002, chanteur chic.
Ouais, c'est lui le chanteur chic, parce que c'est pas souvent qu'on annonce les premières parties, mais en plus, quand vous avez Alain Souchon qui dit ça de vous, et puis à la fin, il venait me voir, me demandait si ça allait. Un jour, j'avais beaucoup de trac, je me suis énervé, j'ai tout cassé dans la loge. Ça le faisait rire, mais je l'aime beaucoup,
Vous avez tout cassé comme un rocker.
Non, mais j'ai dit oui, j'ai défait le lavabo, quoi, un truc d'une connerie, quoi. Mais...
En tout cas, vous avez repris la vie ne vaut rien.
Hein, je l'adore. Là, je dis
rien. Souchon qui sort son album Am 50s dans quelques jours, qui va se produire au Palais des Sports. Vous y serez ?
Ah bah oui.
Vous serez assis ou vous serez peut-être à ses côtés ?
Oh non.
Vous serez dans le public.
Ah non, là, c'est le plaisir de voir Alain Souchon, je vais pas me le gâcher avec le trac et tout ça.
Parce que le concert, la scène, il y a sans doute rien de tel. Ambiance concert.
Le reste du merci à la merci d'une étincelle, quelque part à Paris au fin fond du bar d'un hôtel. Dès la prochaine vie, j'aurai de se rester fidèle. Quelle aventure!
Vous êtes de ces artistes qui disent que c'est là finalement que. Tout ce, je vous entendais le public qui vous répond, vous parliez de dialogue. On entend le dialogue.
Non, ouais, c'est C'est vraiment une des choses les plus extraordinaires quand le dialogue s'instaure comme ça et tout. Il faut du temps en même temps.
Ça a été compliqué un peu au début.
C'est normal quand vous connaissez, quand vous commencez, vous n'avez. Moi, j'étais très complexé et j'avoue que j'avais toujours l'impression de déranger. Je me disais, il faut peut-être que je fasse des reprises parce que mes chansons peut-être les intéressent pas, etc. Et puis à un moment, vous entendez les applaudissements juste parce que vous avez daigné mettre le pied sur la scène et vous dites c'est merveilleusement généreux de leur part. Et en fait, ils sont vraiment là pour moi et, puis non, mais puis je les connais bien. Enfin, il y a des gens à qui je parle après. Enfin, c'est un moment que je me suis surpris à adorer avec le temps.
On vous fait une surprise dans un instant. Benjamin Biolay dans votre journal inattendu. À tout de suite.
Benjamin Biolay est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe.
Je suis snob de Boris Vian, que Gainsbourg avait aussi reprise d'ailleurs. C'est un joli pied de nez, non? Parce que c'est vrai que certains vous imaginent... snob, hautain, c'est une image, c'est assez inexplicable de savoir pourquoi elle vous colle à la peau, parce que je peux témoigner qu'on est loin de là.
Beaucoup le marketing de mon tout premier album, ouais. J'étais en costume cravate, machin, avec la mèche impeccable et tout. C'était bien foutu leur truc.
Mais depuis, ça vous suit, quoi. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, vous avez des plaisirs simples, j'imagine.
Ah, moi, en l'occurrence, j'avais des plaisirs très simples, moi, ouais. Vraiment. Ouais.
La télé?
Un petit caviar.
La télé, vous regardez?
Pas trop, trop, non, ouais. non.
Parce qu'on a une surprise pour vous, quand même.
Ah ouais.
Bonjour Jean-Marc Bloch.
Ah, bah voilà, ça je regarde. Je connais par cœur.
35 ans de police judiciaire à des postes clés, l'anti-gang, la BRB, la direction de la PJ de Versailles, bref, ce qu'on appelle un grand flic,
ouais.
Qui depuis 10 ans propose une série télé non élucidée avec Arnaud Poivre d'Arvor, et je crois, Benjamin Bloch, que vous êtes fan.
Je suis fan absolu.
C'est vrai?
Ouais. Mais je suis fan. Écoutez, moi je suis... Oui,
je suis fan de Jean-Marc Bloch, je suis fan de sa voix, je suis fan de ce qu'il raconte, je suis fan de ce personnage. Si j'étais metteur en scène, je l'engagerais tout de suite.
Non, c'est trop là. C'est trop,
non, c'est vrai.
Jean-Marc Bloch, vous dire que le succès de cette série documentaire, elle tient quand même au fait que ça se démarque vraiment de toutes les autres émissions de faits divers.
Ouais, c'est vrai que ça se démarque vraiment des autres émissions pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on traite d'affaires non élucidées, ouais. Qui sont les affaires qui, pour moi, personnellement, sont les plus douloureuses quelque part, parce qu'on n'a pas trouvé la solution, et quand on part à la retraite, c'est celle qui...
C'est notamment le cas d'Estelle, parce que vous aviez absolument commencé à travailler sur Estelle Mouzin.
Ouais. Tout à fait, absolument. C'est une affaire à laquelle je pense très souvent, bien évidemment. Et puis, en plus, c'est une des rares émissions de faits divers où on va sur les lieux, là où se sont passés les événements, et ça donne une, aussi bien pour les techniciens que pour Arnaud et moi, une dimension particulière, ouais. Parce qu'on ressent les choses différemment. Mmh. On est sur les lieux du crime, on est là où s'est passé le crime.
Et puis alors, vous, ce que vous adorez chez Jean-Marc Bloch, Benjamin Biolay, c'est son côté Lino Ventura, non?
C'est son côté, c'est son côté déjà très intelligent, et justement, et je le trouve vraiment capable de beaucoup d'empathie et de compassion, justement, quand ils sont sur les décors, sur les lieux de crime, je trouve qu'il essaie toujours de relativiser, d'avoir beaucoup de hauteur, et puis sa vie aussi, parce qu'il a, je crois bien savoir que le Gainsbourg, Dutronc aimait bien aller au commissariat, tout ça, bah, les petits coups, non?
C'est vrai, vous le voyez passer de temps en temps là-bas, Gainsbourg, j'imagine.
Oui, j'ai, je suis sorti pas mal avec Gainsbourg, j'ai des très bons souvenirs.
Merci beaucoup, en tout
merci
cas,
infiniment.
De ce clin d'œil, Jean-Marc
c'est
Bloch.
C'est moi qui vous remercie.
Non merci. Élucidé.
On rencontrera un de tes jours, quand même.
Ah bah oui, il va falloir.
Absolument.
Merci à vous, surtout, Benjamin Biolay.
Non, merci infiniment.
Chambre 212, le film de Christophe Honoré, sera sur les écrans le 9 octobre. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Bonne journée à tous.
RTL, le journal inattendu.